écouter dans ce temps-là à la radio. Maintenant, vous pouvez le trouver davantage, ses prédications, sur toutchrétien.tv. Vous pouvez aller l'écouter là. Il est encore avec la Bible parle. Son ministère est un peu différent maintenant. Il supervise davantage l'ensemble des assemblées, la Bible parle, à travers le Québec. Mais depuis quelques années aussi, il est beaucoup impliqué avec la faculté de théologie évangélique, dont il est maintenant le président. Alors, il est en train de conduire des moments de transition importants pour la faculté. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et il y a un ministère aussi qui rayonne un peu à l'extérieur du Québec, va prêcher dans différents endroits à l'extérieur du Québec. Ceux qui avaient déjà entendu la prédication, des messages apportés par Jeff. Jeff est un homme qui a été touché par la grâce de Dieu et qui n'est jamais décollé de là et qui n'est jamais parti de là. Et donc, lorsqu'il annonce l'Évangile, il annonce l'Évangile en s'assurant que la grâce soit bien saisie, qu'elle soit évidente. Une des qualités aussi de Jeff, c'est sa sensibilité à la culture ici, dans la francophonie au Canada, être sensible aux oreilles avec lesquelles les gens qui nous entourent entendent l'Évangile, reçoivent le message, être sensible à ce qui fait vibrer les cordes du cœur des Québécois, quelles sont les valeurs, quelles sont les choses que les Québécois cherchent ou que les francophones cherchent, afin de pouvoir aller les rejoindre là, les rejoindre dans leur histoire à eux avec l'Évangile. C'est vraiment une de ses caractéristiques. Et une autre de ses caractéristiques, c'est son franc-parler. Définitivement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai le privilège et la raison première pour laquelle je l'invite à venir apporter le message de la parole ici, c'est que j'ai le privilège de faire connaissance de plus en plus avec lui parce que nous travaillons ensemble sur le conseil d'administration de Sola. Et donc, avec plusieurs autres frères, on est peut-être 7-8 frères de différentes familles d'églises qui sont représentés, que ce soit les assemblées des frères, l'AGC, la Bible parle, les églises de l'Union, notre association, les baptistes du Sud, les églises réformées. Donc, plusieurs familles d'églises, on travaille ensemble sur Sola, dont vous entendez régulièrement parler ici. Et donc, j'ai le privilège de travailler avec Jeff sur ce comité-là, toujours dans une poursuite vraiment de défendre, de présenter l'Évangile, d'aider l'Église ici francophone à saisir davantage l'Évangile comme étant au centre de notre vie, de notre quotidien, pas simplement le moyen par lequel on vient à la connaissance de Christ, comme nous rappelait la semaine dernière Monsieur Sand. C'est pas simplement la porte d'entrée et puis ce qu'on invoque lorsqu'on se présente justement aux portes du ciel, mais au contraire, c'est notre quotidien. Et la vie chrétienne se comprend lorsqu'elle est vécue au cœur et motivée, poussée par l'Évangile à tous les jours. C'est ça le mandat. Un des mandats de cela, c'est aussi d'aller rencontrer justement la culture ici qui nous entoure avec ce message-là pour pouvoir transmettre le message et qu'il soit compréhensible, accessible, en étant sensible aux valeurs profondes qui motivent les gens autour de nous. Et donc, j'ai vraiment la joie de découvrir de plus en plus Jeff, sur ce comité-là, travailler ensemble. J'aimerais t'inviter, mon frère, à venir nous apporter ce que Dieu a mis sur ton cœur, de venir nous parler, de venir nous brasser ce matin, de venir nous bénir. Et Jeff tombe super bien, notre micro-cravate a brisé la semaine dernière, fait qu'il va prêcher ça à l'ancienne.
Merci. Présentation un petit peu intimidante, quand même. Comme le pasteur Étier l'a rappelé, on travaille depuis un certain temps à préserver les valeurs fondamentales de l'Évangile, parce que c'est quelque chose qui peut se perdre très, très facilement, et pas nécessairement vers le mal, aussi étrange que ça puisse paraître, le mal vient juste après, mais souvent on peut perdre les valeurs fondamentales de l'Évangile parce que on oublie l'œuvre accomplie. Et on entre après dans une œuvre à accomplir pour Dieu et on se met à porter des fardeaux. Et là entre après ça tout ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Puis l'évangile de la prospérité, c'est pas simplement « Viens à Jésus, tu vas devenir riche et célèbre ». L'évangile de la prospérité, c'est aussi « Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Viens à Jésus, tu n'auras plus de maladie. Viens à Jésus, tu auras la victoire. » Et puis, bon, vous connaissez le restant du message. Et puis, c'est quelque chose que... Je me plais pas à détruire parce que j'essaie d'être gentil aussi des fois dans la vie, une fois de temps en temps au moins, tu sais. Mais c'est trop dangereux et ça l'a amené trop de gens à littéralement fondre des fois, tu sais, dans le sens dans la dépression, dans le découragement, dans l'abandon, parce que on vient devant une impression, on vit devant cette impression que Dieu est jamais satisfait. Et inévitablement, si on aborde Dieu sur le principe de la loi, eh bien, inévitablement, c'est vrai qu'on peut sentir que Dieu est jamais satisfait. Mais qu'on veut trouver finalement ce que c'est d'être bien aimé, d'être trouvé, que Dieu prend plaisir à nous voir arriver, ça, c'est vraiment le secret. Fait que le titre que je vais donner au message, c'est « Comment un homme serait-il juste devant Dieu? » Et c'est une déclaration qui est faite par Job, entre autres dans Job 9, 2. Mais aujourd'hui, les gens se posent plus la question de la même manière parce que, surtout en Occident, on a un genre d'athéisme soft, imposé, bien systématique, qui est enseigné dès la maternelle à l'école, parce qu'on donne un, on laisse planer que croire en Dieu, c'est un petit peu folklorique, là, tu sais, ou un peu comme le pasteur Bourque disait hier soir. Souvent, on est accusé de, tu sais, quand on croit en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est une béquille. Hein? Vous avez déjà entendu celle-là? Ouais, c'est une béquille. Puis souvent, quand le pasteur Book disait ça hier, je me disais, moi j'en mettrais plus. Moi je dirais à la personne, non, chum, c'est pas une béquille, c'est une civière, c'est un cercueil, tu comprends? Je veux déposer moi dedans, je veux dire, c'est tout, tu comprends? Parce que je veux pas défendre que c'est, non, on n'est pas faible de croire, on est fort de croire. Non, on veut plus avoir peur d'être faible. Parce qu'on veut trouver notre force véritable, on veut trouver notre justice véritable, on veut trouver notre assurance véritable. Et bonne nouvelle, c'est en dehors de nous. Et ça reste en dehors de nous, même si ça vient en nous. C'est Christ, pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ est en dehors de nous, même s'il vient en nous et il nous met en lui, il reste en dehors de nous pareil. Vous allez voir ça. Ça va faire du sens tout à l'heure. Aujourd'hui, la question se pose plus comment être juste devant Dieu, parce qu'encore une fois, on est dans une culture qui valorise l'athéisme. C'est le snobage d'aujourd'hui, c'est d'être un athée, ou les plus peureux sont agnostiques. Tu sais, ils se disent, ah, je sais pas. Tu sais, ben, faut que tu te branches un moment donné, tu sais ou tu sais pas. Et où il y en a un, où il y en a pas. Tu sais, je veux dire, puis faut que, si tu penses qu'il y en a un, faut que tu le cherches. S'il n'y en a pas, mais passe à d'autres choses. Mais les agnostiques, c'est un peu les peureux de ce monde qui sont assis sur la clôture. On va rester l'image là, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'une vie réussie? Et celui qui a écrit un livre là-dessus, c'est un athée, toujours vivant, philosophe, a été ancien ministre de l'Éducation en France, Luc Ferry, qui a écrit ce livre qui est très intéressant. Parce qu'il l'écrit en tant qu'athée, mais avant de donner sa position, il va présenter une ou deux, on pourrait dire métaphysiques, une ou deux manières de vivre. Et j'ai été surpris que quand il décrit la vie chrétienne, il la décrit vraiment bien. Et c'est là qu'on comprend mieux, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est pas qu'il les comprend pas, c'est qu'il ne les reçoit pas. C'est pas pareil. Et donc finalement, je me suis dit, si j'étais devant ce monsieur, comment je pourrais y expliquer l'Évangile? C'est un athée, il se dit très intelligent, il veut qu'on s'en rappelle. Et puis, je me dis, bon, mais finalement, peut-être qu'il y a une idée négative aussi de l'Évangile, parce que souvent, on annonce l'Évangile sur le principe d'une conscience qui est affaiblie. Tu sais, on cherche souvent, en tout cas moi, souvent je cherche à trouver où la culpabilité, il est où le besoin, il est où le point où Dieu semble avoir éclairé par la loi, que la personne est disqualifiée. Et puis, règle générale, c'est assez facile parce que tout le monde a plus ou moins une bonne conscience. Mais, je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui ont une bonne conscience. Quelqu'un ici qui a déjà rencontré? Hein? C'est gênant un peu, pas? Hein? Puis il dit, est-ce que tu te sens pas un peu coupable? Non. T'es sûr? Comme un citron. Ah ouais? Oui, regarde, j'ai bien réussi ma vie, puis moi, je veux, non, j'ai pas, bon, il y a des erreurs que j'ai faites, mais je veux dire, non, c'est pas un drame, je veux dire. Et on dirait que leur conscience est solide. Il y a des gens qui ont vraiment une conscience très solide. Par contre, il y a des gens aussi qui ont une conscience tellement fragile que ils s'excusent de s'excuser sans arrêt, et puis ils sont mal à l'aise. Ils vont montrer aux gens que, écoutez, vous allez voir, c'est une bonne affaire que je sois là, puis je m'excuse déjà d'avance. Et puis, il y a deux extrêmes. Mais comment t'annonces l'Évangile à quelqu'un qui a une très bonne conscience, que sa richesse, son succès de vie, sa personnalité. Parce qu'il y a des gens, honnêtement, qui viennent dans ce monde mieux que d'autres. Tu sais, la théorie, je ne sais pas qui c'est qui l'a lancée, celle-là, puis on la répète sans arrêt, puis c'est la pire niaiserie qui s'est jamais dit sur la planète. On est tous égaux. Hein? On est tous égaux. Pas sûr. Pas sûr, pas en tout, qu'on est tous égaux. Bref, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est sûr que lui, sa vie, c'est une merveille? Puis si jamais il y a un Dieu, c'est sûr qu'il va le laisser rentrer. Même Dieu a été épaté de le voir arriver. Non, vraiment. Non, je vous le dis, il y a des gens qui... Alors, je me suis dit, c'est peut-être parce que l'Évangile est mal prêché, finalement. Et puis, pendant des années, j'ai essayé de voir, la bonne nouvelle s'adresse, est-ce qu'elle s'adresse simplement à la conscience de l'homme? D'abord, d'où vient notre mauvaise conscience? Notre mauvaise conscience vient surtout de lois qu'on aurait transgressées, qu'on est conscient, mais c'est surtout quelque chose en moi qui veut garder l'unité avec moi-même. C'est pas nécessairement quelque chose qui me rend conscient que j'ai brisé ma relation avec Dieu, la mauvaise conscience. Nous, les chrétiens, notre conscience, c'est sûr, elle s'ajuste maintenant en relation par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, dans la communion qu'on a les uns avec les autres. Elle connecte à plus large. Elle connecte aux frères et sœurs, elle connecte surtout à Dieu. Mais la mauvaise ou la bonne conscience d'une personne qui se dit athée, au fond, la parole de Dieu nous montre que la conscience d'un être humain, c'est quelque chose qui vient après la chute. C'est pas quelque chose qui vient avant la chute. Et pas parce qu'il n'y avait pas de faute avant la chute. Fait que pour qu'on puisse comprendre mieux l'Évangile, il faut comprendre mieux le problème. Fait que je vous propose qu'on retourne au début, dans la Genèse, comment ça a commencé. Peut-être certains l'ont déjà un petit peu entendu, ce message, mais je pense que c'est important qu'on situe le problème avant qu'on parle de la solution. Quand Dieu, finalement, a créé l'homme et la femme, et qu'il les avait mis dans un jardin, donc il les a mis dans un milieu déjà organisé. Il les a pas mis dans une forêt vierge. C'est en d'autres mots, Dieu précède en toute chose l'homme, et il met l'homme dans un environnement viable pour lui. Et à partir d'un plan déjà établi par Dieu, l'homme va vivre de manière maintenant analogue à ce que Dieu a déclaré. L'homme n'est pas né, n'est pas apparu sur la planète, n'a pas été créé par Dieu avec une capacité autonome qui devait chercher à se reconnecter avec Dieu. Ça marche demain que Dieu nous explique comment on a été créé pour être quelqu'un à l'image de Dieu. Et ayant reçu cette image de Dieu, cette capacité de recevoir en nous la loi de Dieu, on est donc placé sur la création de Dieu pour pouvoir la gérer, l'administrer, la protéger, la développer. Et c'est pour ça que l'être humain a ce sens d'indignation ou de réjouissance en lui. Contrairement aux animaux, on a plus que juste la stimulation face à des choses dans le sens qui nous font du mal ou pas de mal. On critique les choses, on les juge, on a cette capacité de juger les choses. Et pour un athée, c'est bien plus un problème que pour nous. Parce que si, comme on l'entend souvent, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal? Puis l'équation dans laquelle ils nous mettent sans arrêt, c'est « Alors votre Dieu, s'il est bon, il n'est pas fort. » Parce qu'il n'est pas capable d'empêcher le mal. Et s'il est tout-puissant, comme vous le dites, il ne peut pas être bon parce qu'il permet les gens qui font le mal de le faire. Puis toi, t'es là devant... t'es juste méchant, c'est tout. Tu vas voir, moi, je crois en Jésus. Mais en réalité, des fois, les gens veulent des fois des réponses en disant, ouais, qu'est-ce que tu dis à ça? Et je pense qu'une manière de répondre, c'est de dire, écoute, sais-tu quoi? Je le sais pas, pas en doute. Puis quand je vais le voir, moi, il demander. Mais entre-temps, t'as bien plus un problème, toi, l'athée, que moi. Il dit, non, tu comprends pas. Moi, je refuse ta notion de Dieu. Je sais, j'étais à Saint-Étienne pour le comprendre. Mais ce que toi, tu comprends pas, par exemple, c'est que toi-même, tu t'es creusé un trou plus profond que le mien. Moi, j'admets que c'est un problème. Écoute, c'est même la parole de Dieu, la Bible que je lis, me dit que c'est un problème que Dieu ne veut pas m'expliquer. Il me demande de résister le mal, de condamner le mal, de persévérer dans le bien, qu'un jour Dieu se charge lui-même d'enlever le mal de sa création, mais il ne m'explique pas le mal, parce que la journée qu'on arrive à expliquer une chose, vous lui donnez raison d'être. Et le mal ne sera pas dans la création de Dieu finale. Alors, il ne l'explique pas. Il dénonce, il l'expose, il la juge finalement cette situation, mais il ne nous explique pas. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous n'êtes jamais passé l'idée en disant, « Seigneur, tu sais quand tu créais, et tu sais tout, ne savais pas qu'un de tes anges t'a pas mal tourné? Moi, il me semble que j'aurais évité de créer Satan. Pas vrai? Tu le crées pas, lui. Il me semble que ça règle une grosse partie du problème. Non? Ou encore l'arbre. Pourquoi tu l'as planté là, l'arbre? Si tu n'avais pas mis d'arbre là, juste l'arbre de vie, est-ce qu'il y aurait eu tant de problèmes? Prochaine fois avant de créer, consulte-moi. J'attends toujours une réponse, mais elle n'a pas donné encore, mais c'est pas grave. T'sais. Bref, tout ça pour nous montrer que le mal, il ne l'explique pas. Fait accalater, tu dis, regarde, moi, oui, c'est vrai, moi, je peux pas t'expliquer le mal. Je peux t'expliquer, par contre, une chose. C'est d'où vient que toi, tu t'indignes face au mal? Non, mais ben, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si Dieu n'existe pas, puis il n'y a pas un bien au-dessus de toute chose, au-dessus de la création, s'il n'y a pas un bien suprême, d'où vient ton indignation au mal? Alors, regarde, pour toi, il y a juste trois niveaux de loi. Il y a les lois de la physique, il y a les lois d'un autre domaine, que ça, les lois de la vie. On n'arrive pas toujours à s'expliquer. La physique des choses, c'est une chose. Il y a des lois là-dedans, la gravité, ainsi de suite. Mais il y a un autre domaine qui s'appelle le monde de la vie. Il y a comme des lois aussi qui gèrent ces choses-là. Et finalement, il y a les lois humaines que nous, on fait, qui sont variantes un peu. Et s'il n'y a pas une loi supérieure, chez qui on va vérifier nos lois pour qu'elles soient bonnes? Est-ce que vous avez déjà entendu des gens vous dire, vous savez, tel comportement, c'est pas mal parce que nous le retrouvons dans la nature. Nous avons étudié une société de rats. Oui, non, je veux dire, on les étudie beaucoup parce qu'il paraît qu'ils nous ressemblent. Non, c'est vrai, c'est eux autres qui le disent, pas moi. Et vu qu'ils nous ressemblent, alors ils étudient. Et là, ils se disent, écoutez, ici, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas, je veux dire, il y a un instinct. Puis pour les gens qui refusent qu'il y ait un bien suprême, qui est Dieu et sa loi, ils sont obligés de chercher ailleurs, entre guillemets, le bien suprême, l'objectivité des choses. Alors, ils se tournent vers ce qui n'apprend pas, disant, si on n'apprend pas, on ne peut pas polluer. Alors, ils étudient les sociétés d'animaux, comme le rat. Et ils se disent, tel comportement sexuel se retrouve, par exemple, chez les rats. Il y a certaines orientations sexuelles qui, littéralement, on les voit chez les rats. L'homosexualité, par exemple. Alors, on se dit, on ne peut plus condamner, c'est naturel. Tu dis au gars, attends, il y a aussi chez les rats des viols collectifs. Il y a aussi chez les rats les mâles alpha et les mâles bêta. Et les mâles alpha payent une moyenne game au moins aux mâles bêta. Alors, est-ce que ça veut dire que dorénavant, tous les tyrans de ce monde sont justifiés parce qu'il y en a chez les rats et que tous les viols collectifs qu'on peut faire aux femmes sont justifiés parce que les rats en font? Alors, faisons un temple aux rats et nous avons trouvé le Dieu qui va dicter maintenant notre mesure. C'est comme ça que les temples d'animaux se font. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi finalement on adore les singes dans certains pays puis d'autres les serpents? Eh bien, c'est parce que finalement on s'est dit, hey, wow, c'est eux qui ont la réponse pour nous. Alors, si je descends au niveau des animaux, pour trouver finalement le jugement de mon comportement, je me trouve à être sous ce que je devais gérer. Et si je dois gérer quelque chose, je ne peux pas être en dessous de cette chose. Et je dois avoir non pas accès à leur loi, mais une loi supérieure à la mienne qui va m'éclairer pour que je puisse voir si ça se comporte selon le plan que le Créateur a voulu. C'est pour ça que l'homme, comme Paul nous le dit, non seulement le croyant qui a reçu la loi de Moïse, par exemple, en Israël, mais même le païen, Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, même lui, il a la loi de Dieu écrite dans son cœur. C'est pas une nouveauté que les Juifs avaient que ça en disant « tu ne voleras pas ». Hey, wow, ça c'est bon ça. Comme si Dieu dit « je te dis un secret, personne ne le sait sa planète, tu ne devrais pas voler ». Ah, oh, tu ne devrais pas tuer non plus. Hey, prends pas la femme de ton voisin. Wow. Donc c'est pas si extraordinaire. Il n'y avait rien de si extraordinaire dans la loi de Moïse, sinon qu'elle a été figée et empêchée d'être corrompue parce qu'on a le don de corrompre les lois, même celles que Dieu a inscrites dans nos cœurs. Maintenant, si on vient au point de départ, Dieu nous a créés, nous a mis dans un jardin. Dans quelles conditions on était dans le jardin? Comment le chapitre 2 se termine dans le jardin? On était comment? On était nus. Voilà un homme qui a l'observation. Non, c'est très bien. On était tout nus et on n'en avait point honte. Intéressant. Trop de versets, vous ne trouvez pas? Tu sais, Dieu prend la peine en disant, en passant, je les ai fait tout nus, ils étaient dans le jardin, puis ça ne les gênait pas. J'ai quasiment l'impression que c'est une publicité pour un petit camp de nudistes ou quelque chose. C'est venez au jardin d'Éden et vous n'aurez point honte. Bref, le Saint-Esprit a fait mettre ce verset pour nous expliquer quelque chose de très intéressant ici. Vous vous rappelez l'histoire de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal? Le serpent vient, donc, et il va maintenant nous défier. Et là, finalement, l'homme et la femme vont tomber dans le panneau de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais avant même d'avoir mangé, on a été vaincu. L'action va simplement être le fruit de ce qu'on a cru. Et c'est pour ça que souvent, le péché, lorsqu'il rentre en nous, s'il n'est pas arrêté par la parole de Dieu, va concevoir, mettre au monde le comportement, l'action. Fait que c'est pour ça qu'avant de dire à quelqu'un de changer de comportement, il faut absolument qu'il y ait une repentance, il faut qu'il y ait un changement d'idée. Il faut vraiment qu'il puisse voir d'où vient que le comportement ici est affecté puis il n'est pas selon le cœur de Dieu. Maintenant, ici, ils sont dans le jardin, ils n'ont pas encore péché, mais ils sont vulnérables. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable demande à ce que sa parole ait autant d'importance, son avis ait autant d'importance, qu'il doit être tenu en compte que celui de Dieu. Et puis la parole de Dieu est intéressante parce qu'elle met un reptile, un serpent, qui veut avoir la même importance que le Créateur. Et n'oubliez pas, l'homme, dans le jardin, est seigneur des animaux. Et là, naturellement, il a fait tomber l'être humain, comme il continue à le faire tomber à chaque génération, même si on est maintenant dans cette culpabilité, en disant, je te place juge. Je te fais juge. Juge entre ma parole et la parole de Dieu. Et la femme, lorsqu'elle a jugé l'arbre, elle a littéralement, finalement, pris la place de Dieu. Parce que dans la manière de comprendre les choses, vous savez qu'on a un sérieux problème dans nos sociétés d'essayer de trouver l'objectivité. Et les gens, en d'autres mots, les plus objectifs, vont avouer qu'ils sont toujours sujets à une pensée ou à une culture ou à une impression. Personne n'a cette objectivité pure. Ça n'existe pas. Et là, finalement, vaincue, elle va manger l'arbre, en donne à son mari qui était à côté, qui disait absolument rien, lui, en passant. Tiens, on se demande tout le temps ce qu'il faisait là. Non, c'est vrai, il est à côté de sa femme. Il me semble que moi, ma femme, c'est en train de parler avec un serpent, je poserais des questions. Dire, chérie, t'es-tu sûr que ça va dans la bonne direction, cette affaire-là? Mais il dit rien. Et c'est lui qui transgresse, l'apôtre Paul nous dit. C'est pas la femme qui transgresse, c'est lui qui transgresse. Elle, elle est séduite. L'homme qui avait reçu le commandement, pas la femme, l'homme avait reçu le commandement, il devait protéger finalement sa femme. Sa femme faisait confiance à ce que Dieu avait dit à l'homme. Il y avait déjà un intermédiaire. C'était pas de manière médiate que la femme avait entendu ce commandement, mais de manière médiatique par un média qui était l'homme. Un peu comme aujourd'hui l'Église et Christ, c'est par Christ que la foi vient. La parole de Dieu ou la parole de Christ comme Paul nous dit en Romains chapitre 2, 10. Maintenant, ils vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 7, regardez. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. » Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, c'est sûr qu'on parle ici de la perception, parce qu'il n'était quand même pas aveugle avant, là, tu sais, je veux dire. Il l'a vu, sa femme, quand Dieu l'a créé, puis qu'il est arrivé devant lui. Il l'a qualifié, il a donné un nom. Il a inventé un nom, comme il a fait pour le restant des animaux. Quand la femme est venue, il a dit, voici cette fois, celle qui est haute de mes os, chair de ma chair, on l'appellera Isha. Et il ne l'a pas appelé Adamet. Dommage, parce que lui, Dieu lui avait donné un nom, Adam, qui veut dire, au fond, de l'argile, le glaiseux. Il aurait pu dire, voici mon anglaise. Tu comprends? Mais finalement, il ne l'a pas appelé du féminin d'Adam, d'Adama. Il l'a appelé finalement Isha, car elle est sortie de Ish. Et c'est la première fois que l'homme se voit. Il se connaît, et chacun de nous, on se connaît lorsqu'on retrouve notre vis-à-vis. Et là, il aime ce qu'il voit. Il n'est pas du tout, c'est pour ça que la Bible dit, il n'était pas honteux de ce qu'il voyait. Parce qu'il voyait la femme dans une lumière qui était la parole de Dieu. Il vivait non séparé de Dieu. Il vivait de ce que Dieu avait jugé. Et l'homme continue toujours à vivre en analogie à quelqu'un de supérieur à lui. Il n'est pas autonome. Ça n'existe pas, l'autonomie. Alors, finalement, l'homme voit cette femme, il se voit au féminin, il aime ce qu'il voit, et il donne un nom particulier à ce qu'il est en voyant la femme. Et c'est pour ça qu'il dit que, bon ben, il n'y avait pas honte. Mais lorsque manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont pas physiquement changé, elle n'a pas pris 150 livres d'un coup, la madame a mangé une pomme, tu comprends-tu? Je veux dire, elle était pareille, il n'y a rien que changé. Mais dorénavant, il a honte de ce qu'il voit. La honte précède la culpabilité. Et aujourd'hui, on n'a pas, puis trop souvent, on travaille sur la culpabilité. On travaille trop peut-être sur la culpabilité. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'enseignements de choses à faire et à ne pas faire. Et c'est pas mauvais. L'apôtre Paul lui-même va découler à la fin de son enseignement avec des choses à faire et à ne pas faire. Mais d'abord, il nous a travaillé sur un point. Savez-vous ce que vous êtes en Christ? Et pourquoi notre salut est sans les œuvres? Et qu'on tient tant, tu sais, ça fait partie de l'orthodoxie finalement. Il y a des gens qui sont morts pour cette doctrine. On est justifié sans les œuvres de la loi, ce que confirment la loi et les prophètes, Romains chapitre 3. Donc c'est vraiment une doctrine fondamentale. Pourquoi on n'est pas justifié par les œuvres? Parce que finalement, si vous êtes en train de faire des œuvres pour simplement vous sentir mieux, est-ce que vous réalisez que vous êtes la motivation derrière ces œuvres que vous faites, la motivation que vous avez, c'est la honte. On est dans ce monde et dès qu'on commence à devenir de plus en plus conscient de nous, vous allez remarquer, les gens sont de plus en plus gênés du regard. Un petit enfant, on a vu deux petits poupons, ils sont totalement libres de la honte. Parce qu'ils n'ont aucune conscience d'eux encore. Pour eux, là, tout ce qu'ils voient, c'est le regard de leurs parents. Et le regard des parents égale la loi. C'est dans la lumière qu'ils vivent, puis tout est correct. Mais plus ils vont grandir, tous les parents ont fait cette expérience traumatisante un petit peu, il y a comme une résistance. Il était si gentil quand il était petit. Pas vrai, c'est tous des petits anges. Puis il y a une métamorphose, il y a une toxine à quelque part, il y a quelque chose qui arrive. Pourquoi? Parce que il y a une crise d'identité. D'abord, pour essayer de se trouver eux, ils sont pas comme nous. Pas vrai? Vous en rappelez plus? Je dis, moi, je veux pas être comme mon père. C'est ma première identité, c'est de pas être comme mon père. Mon père était policier. Bon, ben moi, je m'en vends de la dope. Monsieur de Grandprix s'en rappelle encore, vrai? Hein? Donc, c'était mon identité première. C'était la rébellion à l'époque, c'était les cheveux longs. Bon, ben, moi, les avoir le plus long de tout le monde. Même si la nuit, tu dors mal avec ça, pas vrai? Non, c'est vrai, tu te tournes de bord, tu te pognes dans la couette, et puis, je rêvais que la mode change, mais je fais pas changer, puis c'est hors de question que je perde la face en me faisant couper les cheveux. Puis, ça aurait été la pire des humiliations pour moi, que quelqu'un me pogne, puis il disait, hey, on y rase la tête. Là, c'était à mode à cette heure. Mais dans ce temps-là, là, tu avais voulu humilier quelqu'un, rendre la tête. C'est aussi niaiseux que ça. C'est pas d'où ça venait, c'était comme ça. Donc, l'image qu'on a de nous vient d'une lumière d'un autre. Fait, quand il est dans le jardin, l'homme, il voit exactement comme il faut voir. Il vit du jugement de Dieu. Il est dans cette liberté de pouvoir maintenant œuvrer parce qu'il ne fait pas les choses pour être bon. Il ne fait pas les choses pour être aimé parce qu'il est aimé. Il se voit aimé. Il est totalement libre pour mettre toute son attention dans ce qu'il fait. Et il ne trouve pas son identité dans ce qu'il fait. Il trouve son identification, son identité, son image de lui dans le regard que Dieu a sur lui. Dieu l'aime. Et il n'y a rien à prouver. Maintenant, l'Évangile, c'est quoi? Quand Dieu nous donne la loi, c'est dire, OK, tu veux y arriver par toi-même. Oui, montre, gâche. La religion, sous toutes ses formes, qu'elle soit chrétienne ou autre, C'est une guerre ouverte contre Dieu. Toutes sortes de religions possibles est une guerre contre Dieu. C'est dire, va te pogner sur ton propre terrain. Ah ouais, amène-les tes commandements. Tu ne tueras point. Je suis bon là-dedans. En as-tu un autre? Ah ouais, je suis dans un autre. Ah ouais. Puis Dieu en arrive avec 10. Puis il a, peut-être, là, par exemple, est-ce qu'ici, il y a des gens qui n'ont jamais tué? Jamais. Vous avez pensé, mais vous ne l'avez jamais fait. Les autres mecs ne sont pas levés, on va prier pour vous autres tout à l'heure. Le poste de police est là-bas, là. Donc, c'est déjà un commandement qu'on dit, on est correct avec celui-là, je l'ai jamais fait. Fait qu'un sur 10. Je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui n'ont jamais fait d'adultère. Levez pas vos mains, s'il vous plaît. Surtout si votre femme est à côté de vous, vous ne levez pas la main, t'es là. Parce que, aussi, je suis sûr que presque personne n'a jamais menti ici. Ça, c'est le péché qui vient, c'est le péché cousin. Lui, il vient toujours avec les autres. Il vient rarement tout seul, le mensonge. Il vient, si tu as fait un péché, il vient toujours chez son frère. Il s'en vient toujours. Il faut que tu mentes après. Tu n'as plus le choix, il faut toujours que tu mentes. Bref, le premier commandement, ça, il est plus difficile. Sauf si on est dans la prétention d'aimer Dieu, qu'on s'est fait sur mesure. Peut-être selon l'aime. Mais le vrai Dieu, le vrai vrai, le Seigneur nous dit, non, le vrai vrai, nul ne l'aime. Tu dis, non, c'est pas vrai, Seigneur. Peut-être les autres. Pas vrai? Je te cherchais, moi. Nul ne me cherche. Puis moi? Non. T'agonisais, tu voulais la paix, tu voulais que ça aille mieux, tu voulais pas avoir mal. Puis tu dis, ben tant, puis ça vient avec Dieu, on prendra Dieu. Pas vrai? Soit on dit, viens au Seigneur, il va te guérir. Ouais, peux-tu être guéri sans lui? Non. Bon, OK, on va le prendre. Et souvent, c'est comme ça que les gens viennent au Seigneur, jusqu'à ce qu'il se dévoile à nous de plus en plus. Le premier commandement, on l'aime pas. La preuve qu'on n'aime pas le vrai Dieu, mais qu'on aime souvent les dieux faits sur mesure, qui est la pire forme d'idolâtrie, c'est ce que vous réalisez que Jésus-Christ, c'est Dieu en personne. C'est sûr que vous allez dire oui, vous êtes à l'église, c'est normal, vous allez dire oui. Mais est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Est-ce que Jésus, tout le monde le trouvait beau? Tout le monde le trouvait impressionnant? David, la parole de Dieu, dit c'est un homme qui paraît qu'il était beau et impressionnant. Son fils Absalom aussi. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible sont décrits comme étant des belles personnes. Mais est-ce que vous pensez que Jésus, qui est peut-être la seule personne qui a eu l'occasion de se faire sur mesure, si vous aviez eu la chance de vous faire, y aurait-tu quelques petits détails? Honnêtement, un petit peu plus de hauteur, peut-être. Un petit peu plus de force. Un peu plus de si. On serait fait peut-être différemment. La preuve, ils font des milliards à changer la face du monde. Puis à vendre des crèmes de tous les genres. Pas vrai? Oui, c'est vrai. Jésus se fait. Tu dis, c'est pas juste. Et comment il s'est fait? Sans aucune apparence. Vraiment, Joe Blow. Vraiment pas impressionnant, absolument pas. T'es là, petit... Et par rapport à ça, il se choisit une carrière. La plupart de nous, on trouve, on dit, si je suis laid, m'a devenu au moins populaire. Nous autres, les gars, on a plus de chance parce que je sais pas pourquoi les filles, ils sont capables d'acheter ça. Pas vrai? Les filles? Certainement. Parce que des fois, tu regardes un couple, tu dis, wow, elle est belle. Tu regardes son mari, il doit être intelligent. Tu vois? Mais il y a quelque chose. Et, pas vrai? Jésus s'est fait homme véritable et il était sans apparence. Et pourtant, il dit, voici, si vous voulez voir humainement parlant ce que Dieu a de l'air. Même ses disciples, après 3 ans, se sont dit, bon, c'est bien. Montre-nous le Père. Puis c'est là qu'il dit, mais depuis qu'on est ensemble, quiconque m'a vu a vu le Père. Ah! Mais t'as fait une autre idée. Et comment il vient, ce jeune rabbin, d'une ville de rien? Même, c'était à Momentum, un moment, j'en parlais, puis je lui dis, pensez à une ville quelconque de rien. Verdun! Je me demandais, Verdun, OK, peut-être. T'sais. Mais imaginez une ville de rien. Jésus vient d'une ville de rien. Il a même pas fait ses études à Jérusalem, au moins sa place. Et quel genre de métier? Au moins scribe? Non. Un gars de la construction. Un gars de la construction. charpentier. Arrêtez de voir un gars qui fait simplement des beaux meubles fins. Jésus, il monte des maisons, il fait des charpentes. Et il a dû souvent passer à côté du clou. Et il n'a pas dit de gros mots. Ah là là! Et ça a dû y faire aussi mal que tout le monde. Il s'est fait tellement, mais regardez, il s'est fait tellement, mais tellement ordinaire que même ses disciples, tout le monde était un peu déçu. Et sa fin, la fin, c'est un désastre. Et même s'il avertit ses disciples, ils veulent pas voir qu'il doit souffrir. Ils veulent pas voir de la faiblesse. Ils veulent quelqu'un qui arrive puis qui règle les problèmes. Par ouais, dis-leur aux Romains. Puis lui, là, quand ils viennent le chercher, puis Pierre, il dit, avez-vous des armes? T'sais, c'est comme une dernière prophétie qui s'accomplit. Pierre, non, c'était celle de son grand-père, je ne sais pas laquelle, mais il y en a une. Puis tu sentais qu'il n'était pas trop habitué avec ça, right? J'en ai une. OK, une, ça va se faire. OK. Puis là, les gars arrivent, ah, c'est bon. Jésus a assez de puissance que juste quand il dit, c'est moi, ils sont tombés dans l'esprit. Toutes les gens, hein, les gars qui venaient le chercher. Et puis, ils se sont levés, ils ont dit, ouais, c'est moi. Et là, ils s'en viennent, Pierre prend son épée. C'est pas comme un ninja, il dit, m'a juste commencé avec une oreille. Tu en vas? Il visait la tête, il l'a manqué. Et puis, finalement, il y a qu'une oreille. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, OK, remets ton épée dans son fourreau. Et puis, là, il prend l'oreille du gars, puis il guérit. C'est qui? Dieu. Et là, il se laisse amener, mettre nu, frappé à mort. Il était plus reconnaissable, humilié, couronné d'épines, cloué sur du bois. Maudit de Dieu, cloué sur du bois. Maudit quiconque meurt pendu sur le bois. Il crie même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné de son Dieu. Je dis, c'est un désastre total. Mais est-ce que vous réalisez que c'est un désastre total? Son groupe au moins. Il n'y a plus un. Peut-être Jean, déguisé quasiment. Hein? Les femmes, un peu plus courageuses que les gars qui étaient là. Il agonise puis il meurt. Mais regardez l'œuvre de Dieu qui est assez spéciale. Plutôt que d'essayer d'arranger pour que ce soit impressionnant, Dieu recrée toutes choses. Il est en contrôle. La faiblesse de Dieu est plus puissante que toute la force des humains. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si le Seigneur va fortifier la foi, notre foi, la foi de tout le monde. Il est en un état de faiblesse terrible. Selon l'image, on est complètement catastrophé. Il est plus reconnaissable. Il est humilié, abandonné de tous. Et un des deux larrons, qui d'abord avait commencé à le maudire comme avec l'autre, il est saisi par la vie. Et pendant qu'il dit à l'autre, arrête. Qu'est-ce qui a clenché en lui, arrête, dit à l'autre, arrête. Nous, on mérite ce qu'on a. Il n'a plus peur de parler de sa condamnation. Et il dit au Seigneur, quand tu vas rentrer dans ton règne, rappelle-toi de moi. Et le Seigneur dit, à soi même, tu vas avec moi au paradis. Qu'est-ce qu'il a vu? Un roi, un puissant, un monarque, un beau. Il est humilié, couronné d'épines, en train d'être pendu au bois, mourant, il agonise, il est abandonné de tout, son mouvement l'a abandonné. Mais le Saint-Esprit nous rappelle, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Une vie réussie, ben c'est une vie finalement qui dit, tu me fais entrer dans une liberté que j'ai jamais connue. La liberté d'avoir rien à prouver, car je trouverai dans ton regard, à mon égard, quelqu'un qui m'aime. Mais quand j'essaie de savoir qu'est-ce que t'aimes pour que je t'en donne plus, il n'y a rien. Je me trouve tout nu devant lui à nouveau. J'ai plus de diplôme, j'ai plus d'œuvre, j'ai plus rien, j'ai plus de capacité de charmer, séduire. Je me retrouve coupable même. Mes péchés deviennent plus évidents que jamais. J'ai peur qu'il en voie trop. Et j'entends qu'il m'aime puis qu'il m'a pardonné. Et il dit, tu vas garder ton regard toujours dans cette direction. Ne quitte jamais la croix. Je vais faire des œuvres par toi. On va faire des choses ensemble. Je veux que tu les oublies tout de suite après. Et ça, c'est dur, pas vrai? Puis, qu'est-ce qui arrive de bon? Ben, laisse-moi te raconter. Il dit, laisse un autre faire ta louange. Oui, mais s'il ne la fait pas, ben peut-être que ça mérite que ça ne soit pas fait. Laisse un autre. Tais-toi. Va te cacher. Reste dans les ténèbres, car ton Père voit dans le secret. Mais il ne voit pas ce que je fais. C'est ça qui est merveilleux. Il nous voit, nous. C'est nous qu'il voit et qui aime. Et c'est comme ça qu'il nous fait entrer dans cette glorieuse liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne redevenez pas esclaves des hommes, de leur système qui vous donne plus ou moins de valeur. Soyons affranchis, entrons plus dans cette liberté. Des gens à qui on va leur dire, mais qu'est-ce que vous faites pour être en paix? Ben justement, rien! Rien! Mettez-vous juste à voir dans vos vies comment vous faites. Partez en vacances! Qu'est-ce que vous allez dire quand vous partez en vacances? Pasteur, c'est pas pareil. Mais supposons les autres. Tu dis pas! Moi, à un moment donné, on a passé, moi et ma femme, on est partis en Israël un an. Ça a été un privilège incroyable. Un an. On est à l'église, hey, on peut-tu s'en aller? Un an. Puis ils nous ont dit, OK. On avait demandé au Seigneur avant, puis ça semblait, bon, on s'en va. Là, on arrive en Israël, tout le monde panique là-bas. On avait un petit groupe de notre mission, tu sais. Hey, on veut-tu réparer un divorce? On dit, non, non, non. Mais pourquoi vous êtes là? Même les autorités israéliennes, vous emmenez ici pour faire quoi? Rien. Écoute, je pense qu'on va passer une heure. Alors, dis non, je vous dis rien. Vous n'avez pas étudié à l'université? Non. Vous allez quoi faire quoi? Rien. Je m'en viens juste voir le pays, je m'en viens rien faire. Écoute, c'était la chose la plus dure à convaincre que je m'en venais rien faire. L'équipe qui nous attendait, écoute, Jeff, tu peux me parler, je suis ouvert, on va regarder ça entre nous autres. Tu as une crise dans ton couple? Non. Dans l'église? Non, non, ça va très bien même. Pourquoi t'es là? T'es une dépression? Non. T'es là pourquoi? Pour rien. J'ai demandé au Seigneur, il a ouvert les portes, il a pourvu, je te cite. Je t'achète quelque chose, hey, c'est beau, c'est rien. 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 Une justice par la foi et non une justice par la loi, Philippiens 2. Justice par la foi, connaissance de Christ, et non dans ce qu'on peut faire. Amen. On met ça au Seigneur? Seigneur, on est sauvés par toi parce que tu nous as regardés. Parce que, Seigneur Dieu, tu nous as aimés. Le premier. Seigneur Jésus, on peut facilement quitter ce regard en espérant vouloir garder cet amour en allant faire plein de choses souvent. Mais encore une fois, s'il vous plaît, viens à notre secours. Notre image ne dépend pas de ce qu'on fait. L'image que tu veux nous redonner, c'est celle du jardin. Tu nous aimais. Tu as aimé ce que tu fais. On est ton œuvre en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, la seule chose qui te plaît maintenant dans nos vies, c'est la confiance, la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il ne reste plus qu'une chose, croire que tu nous pardonnes, croire que tu nous reçois, croire que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, croire que tu as vraiment réglé le problème du péché dans nos vies, de la honte principalement, et t'effaces nos transgressions. Tu nous aimes d'un amour totalement libre et on ne peut rien y faire, rien y ajouter, rien y enlever à cet amour, simplement le recevoir. Il ne reste qu'à y croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. S'il vous plaît, mon Dieu, ouvre nos yeux. À ceux qui ont cru en toi, ouvre nos yeux davantage. Que la lumière de ce monde qui donne un autre système de valeurs, soit par la richesse, le succès, la gloire, même la race ou peu importe, que tout ça devienne fade, stupide, sans valeur, et que notre foi triomphe de ce monde. Cette foi qui croit que tu nous aimes, point, et que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils pour nous, afin que quiconque croit soit sauvé. Seigneur, s'il vous plaît, fais-nous entrer davantage dans cet évangile glorieux, où il n'y a rien à faire sinon tout à recevoir. Et ainsi, tu pourras produire le fruit de ta vie en nous, le fruit de l'Esprit et non le nôtre. Ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Et peu importe le nombre d'œuvres après qu'on fera, on peut toujours te rendre toute la gloire. Parce que notre identité en dépend plus. Tu nous aimes d'un amour éternel. Merci Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.